Maturité du marché versus narratif. Une analyse de l'argument early adopter. Premièrement, la psychologie des précurseurs. Dans les cercles d'investisseurs en actifs numériques, le narratif We are still early, nous sommes encore au début, est omniprésent. Psychologiquement, ce mantra sert souvent à rationaliser la volatilité et les déficits infrastructurels comme des douleurs de croissance. Du point de vue de la finance comportementale, il protège les investisseurs de la dissonance cognitive qui survient lorsque les promesses technologiques ne correspondent pas à la maturité des applications réelles. Pour les acteurs professionnels du marché, il est cependant crucial de séparer ce narratif émotionnel des faits fondamentaux. Un actif qui, après plus d'une décennie, présente encore des risques élémentaires en matière de conservation et de sécurité des transactions doit être considéré avec discernement. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais d'une évaluation réaliste du niveau de maturité d'une classe d'actifs. Deuxièmement, contexte historique de la maturité du marché. Factuellement, la blockchain Bitcoin existe depuis 2009. À titre de comparaison, les marchés financiers modernes reposent sur des structures qui ont évolué sur plus de 400 ans, tandis que l'industrie informatique développe des normes de sécurité logicielle et d'utilisabilité depuis plus de 40 ans. L'argument de la jeunesse de la technologie perd de sa validité après plus de 15 ans. Si une industrie, malgré des milliards d'investissements en capital risque, VC, continue de présenter des déficits significatifs en matière d'expérience utilisateur, UX, et de sécurité, cela suggère moins une phase précoce qu'un changement structurel des priorités. La question est, qui profite de la complexité actuelle? Troisièmement, l'asymétrie de l'information comme modèle économique. Dans les marchés efficients, l'information circule rapidement et est disponible pour tous les participants. Le marché des crypto-monnaies, en revanche, se caractérise par une forte inefficacité et une grande asymétrie d'informations. Les produits complexes et les mécanismes opaques du secteur DeFi, finance décentralisée, ne sont souvent pas un défaut, mais une fonctionnalité, tant qu'un petit cercle de spécialistes, initiés, comprend pleinement les risques techniques et les mécanismes d'un protocole. Ces acteurs peuvent profiter des erreurs de jugement des participants moins informés. Arbitrage, front-running, liquidation. La barrière pour le marché de masse, une UX compliquée, agit ici comme un filtre. Elle maintient la smart money entre elles, tandis que les investisseurs particuliers n'entrent souvent que lorsque les valorisations ont déjà faussé le ratio risque sur rendement. Les risques sont fréquemment externalisés. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des erreurs techniques, self-custody risk, un concept qui a été minimisé dans la finance traditionnelle par la réglementation et l'assurance. Quatrième point, analyse des risques, au-delà de la volatilité. Alors que le risque de marché, fluctuation des prix, domine dans les marchés classiques, les investisseurs crypto doivent évaluer des catégories de risques supplémentaires souvent sous-estimées. Risque technique, smart contract risk. Des bugs logiciels ou des exploits peuvent entraîner une perte totale. Les audits réduisent ce risque mais ne l'éliminent pas. Risque de centralisation. De nombreux projets nominalement décentralisés sont factuellement contrôlés par de petites équipes de développeurs ou des DAO, organisations autonomes décentralisées, avec une forte concentration des droits de vote. Risque opérationnel, la nature irréversible des transactions blockchain ne pardonne aucune erreur opérationnelle dans la conservation. Dans la banque traditionnelle, les modules logiciels sont rigoureusement testés avant déploiement. Dans le secteur crypto, le « testing in production » est souvent accepté, le capital des utilisateurs servant de masse de test. Une approche d'allocation professionnelle nécessite donc une diligence technique approfondie, due diligence, qui va bien au-delà de la lecture d'un livre blanc. Cinquièmement, le comportement grégaire et la communauté. Le terme « communauté » est souvent utilisé de manière inflationniste dans le marketing crypto. D'un point de vue analytique, il s'agit fréquemment d'effets de réseau amplifiés par des incitations financières. Lorsque tous les détenteurs de jetons profitent de la hausse des prix, une forte incitation à une représentation positive non critique, shilling, est créée. Le discours critique, essentiel pour la découverte des prix et la correction des erreurs, est souvent supprimé dans de telles chambres d'écho. Pour les observateurs externes et les investisseurs, il est donc conseillé de considérer les analyses de sentiments avec scepticisme et de se fier aux données vérifiables on-chain et aux métriques fondamentales, par exemple Total Value Locked, revenu, utilisateurs actifs, plutôt qu'aux discussions sur les réseaux sociaux. Sixième, la voie vers l'institutionnalisation, la réglementation. L'introduction de cadres réglementaires comme MICEA, Markets in Crypto Assets Regulation, dans l'UE, marque un tournant. Ce qui est souvent critiqué par les partisans libertaires de la crypto comme une restriction est la condition préalable nécessaire à l'entrée de la liquidité institutionnelle. Les investisseurs professionnels, caisses de pension, compagnies d'assurance, family office, ont besoin de sécurité juridique, de règles de responsabilité claires et de normes pour l'intégrité du marché. La réglementation filtre les acteurs frauduleux et oblige les projets à adopter des normes qui vont de soi dans la finance traditionnelle. Obligation de transparence, divulgation des réserves et des modèles d'affaires, ségrégation des actifs, séparation des fonds des clients et des actifs de l'entreprise, responsabilité claire en cas de défaillance technique ou de piratage. Septième, liste de contrôle pour la diligence raisonnable. Au lieu de se fier au narratif early, les investisseurs devraient évaluer les projets sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs, transparence et reporting. Y a-t-il des rapports réguliers et détaillés sur le développement et les finances? Les risques sont-ils communiqués de manière proactive? Architecture de sécurité. Le code a-t-il été audité par des firmes réputées? Existe-t-il un programme de bug bounty? Conformité, compliance. Le projet respecte-t-il les normes internationales AML/KAICRE? Existe-t-il une entité juridique claire? Équipe et track record. L'équipe est-elle connue et dispose-t-elle d'une expérience vérifiable dans le secteur financier ou technologique? Traction réelle. La valorisation est-elle basée sur l'utilisation actuelle et les flux de trésorerie ou uniquement sur des promesses futures? Gouvernance. La prise de décision est-elle vraiment décentralisée? Qui détient la majorité des jetons de gouvernance? Huitième, conclusion. La maturité grâce à la professionnalisation. L'industrie de la crypto se trouve à la croisée des chemins entre technologies de niche et infrastructures financières mondiales. L'argument de la phase précoce ne doit plus être une excuse pour un manque de professionnalisme. Pour la prochaine phase d'adoption, le battage médiatique et les narratifs ne sont plus décisifs, mais plutôt transparence radicale concernant les risques et les réserves. Design centré utilisateur qui assure la sécurité même pour les non-initiés. Coopération avec les régulateurs pour instaurer la confiance pour les grands capitaux. Les investisseurs feraient bien de passer de l'espoir spéculatif à une analyse fondée. La technologie a du potentiel. Mais celui-ci ne se réalise que par des normes professionnelles et non en attendant simplement le prochain cycle.